L'Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 35 à 45. Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Au nom de Jésus. Ensuite, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent : Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?» ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ? Et ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparés. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ce qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandes en maître et les grands personnages, leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. » Amen. Je me rappelle de deux événements royaux dans la famille royale britannique qui ont suscité un engouement médiatique dans le monde entier. Tout le monde suivait cela. C'était les mariages du prince William et du prince Harry. Ces deux frères, inséparables, lors de leur enfance et de leur adolescence, mais une fois qu'ils se sont mariés, quelques années plus tard, leurs chemins se sont séparés. Et nous savons tous le conflit au sein de la famille royale quand le prince Harry a décidé de quitter ses charges de prince. Toute une histoire, ça ne nous intéresse pas, mais c'est juste l'événement que j'aimerais que vous compreniez afin que j'introduise ce texte. Je me rappellerai toujours une conférence de presse faite par la monarchie britannique. Le prince, on avait dit, le prince a fait son choix. Et ce choix a un effet immédiat. Il perd son titre, tout en restant toujours « prince » entre guillemets. Mais là où je veux en venir, le titre honorifique est toujours lié à des charges et des obligations. Que tu sois prince, roi, reine, premier ministre, tout ce que tu veux, ça veut dire plus de titres, plus de responsabilités, plus d'obligations. Donc, tu n'es pas libre quand tu as un titre honorifique. Et c'est un peu ce qu'on attend des stars, par exemple, que tu sois un star de football ou de chanteur ou d'autres stars. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent car ils deviennent des icônes et ont un devoir envers le public. Ils ne sont plus de simples personnes, mais des images et des références. La gloire, chers amis, n'est pas ce que tu crois, c'est tout à fait autre chose. Donc, ne cherche pas la gloire, tu auras des problèmes avec. Dans ce texte que nous avons aussi, on peut voir une séparation interne en deux, comme le prince Harry et le prince William, au sein des disciples. Ils étaient tous bien ensemble, mais à un moment donné, quand la gloire, la quête du pouvoir entre, ça fait un schisme parmi les disciples. D'un côté, il y a Jean et Jacques, et de l'autre côté, les dix. Je suis sûr et certain que la plupart d'entre vous, moi y compris, nous voyons de mauvais œil comme les dix apôtres l'ont aussi pensé. La demande de Jean et Jacques, ils étaient indignés. Notre réaction serait normale car ce n'est pas de notre faute. C'est à cause de la traduction erronée qui est faite dans les textes français et même anglais ou tous les traductions. Et là, comme on dit, qui dit traduction veut dire trahison. Il faut revenir au texte grec. Littéralement, à partir du texte grec, il n'est pas question, on aimerait être à ta droite ou à ta gauche, c'est ce qui est écrit dans nos Bibles, quelles que soient les versions, ou non plus Jésus qui a dit, c'est pas à vous de savoir qui sera à ma gauche et à ma droite, là où il y a l'erreur, c'est plutôt au pluriel, à tes droites, à tes gauches. Ou à mes gauches, à mes droites. Ça, c'est le texte grec. Ce pluriel change tout. Peut-être vous dites, oui, mais ce n'est qu'un détail. Non. Ce détail change tout et transforme notre compréhension. C'est-à-dire qu'au final, Jean et Jacques ne sont pas ce que nous avons cru qu'ils voulaient être au-dessus des autres. Moi aussi, j'avais cru à cela. Des personnes assoiffées de pouvoir et d'honneur plus que les autres disciples ? Non. Ils ne cherchaient pas une place exclusive, parce que les autres pensaient que c'était une exclusivité qu'ils voulaient. Et pourtant, les dix autres disciples ont mal compris et ont mal pris et se sont indignés ou se sont plaints auprès de Jésus pour l'influencer à les sermonner. Je laisse là cette histoire. Dans toute dynamique de groupe, une communauté, une SBL, une organisation humaine, il y aura toujours des petites guéguerres, des petites rivalités, des affrontements à cause d'un problème d'ego. Et malheureusement, même dans l'Église. Je pense que c'est tellement ancré dans notre paradigme humain. Car même nos conjugaisons, on nous a pris à l'école par « je ». Après « je tue ». Mais heureusement, Dieu a choisi les Hébreux. Savez-vous comment eux y conjuguent ? Ils commencent par « il ». Eh oui. « Il » ou « elle ». Vient ensuite le « tu » et après le « je ». J'ai dit « tiens, tiens, c'est pas par hasard. Toutes les conjugaisons du monde, je ». Mais celui des Hébreux, la langue que Dieu a choisie, c'est la langue d'un paysan, mais c'est Dieu qui voulait déjà se révéler à travers ce peuple. « Il », qui « il » ici aux troisième personne du singulier. Ensuite, « tu » et après « moi ». Incroyable, non ? Ça, c'est intéressant de voir. Et cela m'a fait réfléchir en me disant, il serait impossible pour l'humain, que tu sois chrétien, pasteur, berger, évangéliste, tous les titres que tu peux avoir, de penser à l'autre s'il n'aime pas Dieu d'abord. S'il n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, avant toute chose, n'est-ce pas ce que est résumé dans la loi ? Quelle est la loi la plus importante, disaient les pharisiens ? Tu aimeras ton Dieu, ensuite tu aimeras ton prochain. Donc il y a des gens qui sont peut-être charitables, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu qu'ils sont charitables. Et donc ces manifestations de charité sont fausses, parce qu'ils instrumentalisent leur charité pour se mettre en valeur. Et c'est ce que le monde fait. On donne des dons, on appelle tous les médias, regardez, on donne du riz à ces pauvres. Tout le monde regarde à la TV. Vous voyez, on instrumentalise. On crée des fondations. Mais vous savez très bien comment fonctionnent les fondations. Il y a des transferts d'argent cachés derrière. Pour diminuer leurs impôts. Ah oui, ça se fait. N'oublions pas que la loi se résume en deux grandes parties. La première, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Et la deuxième partie, aimer son prochain. Ce qui signifie, chers amis, pour aimer l'autre et aimer sincèrement selon Dieu, je ne pourrai le vivre que si je ne suis pas d'abord touché par l'amour de Dieu. Car notre cœur est trop petit. Mon cœur est trop petit, il n'y a qu'une seule place pour une personne dedans, moi. Nous avons obligatoirement besoin d'une circoncision de cœur. C'est pour cela qu'il y a cette belle phrase, « Seigneur, circoncis mon cœur ». Pour pouvoir mettre d'autres places dans mon cœur. Vous savez, le péché originel, c'est l'ego. L'égoïsme, pas l'égoïsme dans le sens que moi d'abord, mais le fait de mettre le moi en valeur. C'est ce que le diable avait dit. Tu veux être comme Dieu ? Voilà. Il joue avec ça. Et tout découle de là. Ce qui est pointé du doigt dans ce texte, c'est la fausse conception ce que c'est que la gloire. Les 10 croyaient qu'être à la droite et à la gauche de Jésus est une place honorifique. Donc eux aussi, ils s'indignaient parce qu'ils croyaient que les deux voulaient être plus élevés. Or, c'est eux aussi qui ont une mauvaise foi. Mais c'est justement là qu'ils se trompent. Et si vous avez bien regardé l'image que nous avons représentée, le thème, il y avait deux personnes à côté de Moïse qui soutenaient les bras de Moïse. Rappelons-nous de l'histoire de Moïse lors de la bataille contre les Amalécites. À Réphidim, ses mains se faisaient lourdes. Quand Moïse levait les bras, les Israélites étaient forts. Quand Moïse était fatigué, il baissait ses bras, les Amalécites étaient plus forts qu'eux. Alors, qu'est-ce que Aaron a fait, le frère de Moïse ? Il a dit à Hur, « Viens, on va monter auprès de Moïse. Tu te mettras à sa gauche, moi je mettrai à sa droite, et on va le mettre, il va s'asseoir sur un rocher, et on va soutenir ses bras jusqu'à ce que le peuple d'Israël gagne. » C'est-à-dire quoi ? Il se mettait à sa gauche et à sa droite pour servir le peuple. Pour que le peuple gagne, il faut soutenir Moïse, parce que Moïse, il est humain et il peut être fatigué. Et donc, ces places ne sont en aucune façon des places d'honneur, ce sont des places d'auxiliaires. Ils étaient là en tant qu'auxiliaires de Moïse, mais pas là juste pour se mettre en valeur par rapport au peuple. Non. S'ils n'avaient même pas eu ce courage d'aller pour soutenir les bras de Moïse, ils périrent tous ensemble. Donc, le fait de se mettre à sa droite, à sa gauche, dépend aussi la vie de tout le monde. Par conséquent, celui et celle qui souhaiterait être à la droite ou à la gauche de Jésus, c'est louable, au contraire. Se mettre dans une posture de serviteur. Voilà. Mais soyons clairs, il n'est pas aussi question de soumission, mais de celui qui va affranchir ceux qui sont encore enchaînés. Regardez bien le verset 45 où il est dit « Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon. Le mot rançon ici est un peu bizarre, mais plutôt la traduction plus adéquate, c'est la rançon ici, c'est la libération octroyée à un esclave pour qu'il soit affranchi. Voilà la rançon. Ce n'est pas la rançon comme vous le connaissez, s'il y a une prise d'otage ou pour payer. Non, c'est l'argent que tu payes pour que l'esclave soit affranchi. Tel est le sens de rançon ici. Donc, la vraie humilité chrétienne, chers amis, ce n'est pas le fait de se mettre en retrait ou être discret quand on dit « Oui, mais cet homme-là, cette femme, elle est très discrète, elle est humble. » Ça, c'est notre définition de l'humilité. Paraît-il, les bons protestants ont cette qualité. On ne se met pas trop en valeur, on est un peu discret par rapport aux autres. Non, ce n'est pas ça l'humilité chrétienne. Oui, c'est de l'humilité populaire, profane. Mais l'humilité de Jésus a permis que nous soyons sauvés et libérés de nos chaînes. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui se met au service du Christ pour libérer son frère et sa sœur. Voilà. Donc, si tu veux suivre le Christ, si tu veux être à sa droite et à sa gauche, ça veut dire tout, tout un programme. Es-tu prêt à servir le Christ en libérant tes frères et sœurs? J'ai beaucoup aimé l'explication du pasteur Jean-Marc Pernaud, qui avait fait lors d'une de ses homélies expliquant le sens de la bénédiction aaronique. Vous voyez la bénédiction aaronique tout à la fin? Le pasteur dit que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Surtout ce verbe « lève la face », il dit, il ne dit pas qu'il tourne sa face, mais il lève sa face pour que Dieu nous regarde d'en bas. Dieu ne nous regarde pas d'en haut. Or, moi, je pense toi aussi, tu avais cru que Dieu te regarde d'en haut. Comme s'il te regarde comme ça. Non, il lève sa face. Donc, il te met dans une position élevée. Il lève sa face pour dire que Dieu ne nous regarde pas en hauteur. Il nous regarde d'en bas pour nous relever. Et la gloire de Dieu est de nous voir réussir. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de nous voir sauver. La gloire de Dieu, c'est de nous voir nous relever. Telle est sa gloire et non l'exaltation. Si vous mettez cela sur une balance, par exemple, quelqu'un qui va faire une louange, il va chanter, danser toutes les musiques du monde pour exalter Dieu d'un côté. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait tout pour servir l'autre afin qu'il réussisse, c'est ça que Dieu veut. Pas besoin, je ne dis pas que pas besoin, mais ça ne sert à rien de chanter, de louer, d'exalter. Mais tu fais tout pour mettre des bâtons dans les roues de ton frère et soeur, ta soeur. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que tu fais tout, même pour t'effacer, afin que ton prochain puisse réussir. Ça, c'est une vraie louange. Et agréable à Dieu. Malheureusement, les gens aiment le paraître. Ils préfèrent ça. Je t'aime Dieu, je t'aime Dieu. Et après, quand il finit de faire ça, tiens, reçois ça. Tiens, reçois ça. C'est pas ça, être à la droite de Dieu, chers amis. C'est comme Aaron et Hur qui tient les bras de son frère. Si tu vois que ton frère et ta sœur tombent, ses bras tombent, on n'a plus besoin d'un diable pour rajouter une couche, pour la juger, pour le juger, pour l'accabler. Relève-la. Soutiens-la. C'est ça que cette personne a besoin. Combien de frères et sœurs ont ce réflexe quand ils voient un de ses frères tomber? Et toutefois, Jésus met en garde tous ses disciples, y compris Jean et Jacques, quand on est à la droite et à la gauche du Christ, on partage tout. Voilà. Oui, vous voulez être à ma droite ? Ok, Jésus a dit d'accord. Mais vous allez boire ma coupe avec moi. Voilà. Si tu veux être vraiment un accompagnateur, quelqu'un qui accompagne ses frères et ses fils, tu dois partager la douleur de cette personne. Tu dois boire la coupe amère de cette personne. Oui, tu dois la boire. C'est ça, être compagnon de route. C'est pas juste taper sur le dos, allez, ça va aller, ça va aller, ça va passer. Boire à la même coupe que le Christ. Il est dit, la grâce que vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà ce que Jésus a dit. Non seulement de mettre votre foi en lui, le Christ, mais aussi de souffrir pour lui et avec lui. Je te repose la question, je me repose à moi-même la question. Es-tu prêt à être à la droite de Jésus? Voilà ce qui t'attend. Soutenir le faible et boire à la même coupe que le Christ. Amen.